Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la 5G va-t-elle nous simplifier la vie ? Imaginez un monde où les objets vous obéissent au doigt et à l'œil, de manière instantanée, si vite que vous avez l'impression qu'ils ont devancé votre pensée. Ce monde-là, et pour bientôt, c'est celui de la 5G. La 5G, c'est la nouvelle génération de réseaux de téléphonie mobile. Avec elle, tout va beaucoup plus vite. Les débits pris en charge sont sans commune mesure avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Pour le Figaro, elle est à l'industrie du 21e siècle, ce que l'électricité a été à celle du 19e. Et pour reprendre la formule de la Commission européenne, elle va nous faire entrer dans la société du gigabit. En France, il faudra attendre 2025 pour en mesurer les effets. Opérations chirurgicales à distance, véhicules autonomes, villes intelligentes. La 5G, c'est la promesse d'un monde hyper connecté. Une évolution présentée comme inéluctable, c'est le progrès. Mais qu'allons-nous vraiment y gagner ? On l'a vu avec le développement d'Internet, des moyens de communication et des modes de transport, la vitesse ne fait pas forcément gagner du temps. Face à une rupture technologique d'une telle importance, qui va modifier en profondeur l'organisation de la société, ne faut-il pas en faire aussi un objet de débat politique ? Alors la 5G va-t-elle nous simplifier la vie ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Pierre-Jean Bengozy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'école Polytechnique, membre sortant du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et vous y avez notamment suivi le dossier de la 5G. Pour discuter avec vous ce soir, deux invités qui se trouvent à distance. La première est à Grenoble dans les studios de France Bleu Isère. Il s'agit de Laurence Allard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, spécialiste de l'innovation et des usages numériques, maîtresse de conférences en sciences de la communication à Lille 3 et chercheuse à l'université Paris 3. Et puis troisième invité, lui, il est en Suisse, à Lausanne, dans les studios de la RTS. Il s'agit de Dominique Boulier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur des universités, spécialiste des usages du numérique et des technologies cognitives, chercheur au Digital Humanities Institute de l'École Polytechnique de Lausanne. Alors, il y aura peut-être un léger décalage entre les questions que je vais vous poser, Laurence Allard et Dominique Boulier, et vos réponses. Pierre-Jean Bengozy, est-ce que quand il y aura la 5G, ce petit temps de décalage sera totalement aboli et on pourra avoir des invités qui seront systématiquement loin des studios de Radio France ?
Ah ben oui.
En tout cas des studios de Parisiens de Radio France.
Tout à fait, on pourra faire des débats en direct, en temps réel. On arrive déjà aujourd'hui à conduire des voitures qui se trouvent à l'autre bout de l'Europe en ayant le volant et les pédales à Paris. Donc une des forces de la 5G. Je ne serais pas forcément aussi exubérant dans les attentes que celles que vous avez évoquées en introduction. En tout cas, une des forces, ça sera très clairement de réduire ce qu'on appelle la latence, la réactivité, et qui sert à conduire des voitures, à jouer à des jeux vidéo ou à organiser des émissions de radio.
Eh ben allons-y justement sur cette notion d'exubérance. Est-ce que j'ai un peu exagéré les attentes qu'on peut avoir aujourd'hui à propos de cette technologie qu'est la 5G, Laurence Allard ?
Oui, c'est vrai que la 5G, elle est vendue avec des promesses à la fois de performance de la connectivité qui va s'étendre aux objets, aux non-humains. Donc c'est vraiment tout le monde qui va être connecté. Et c'est notamment l'architecture, en effet, de la Smart City et principalement aussi de tout le scénario technique autour de la voiture autonome. Et c'est aussi donc une promesse d'une connectivité étendue en termes de comment, c'est-à-dire c'est la promesse du sans friction, il n'y a plus de lag, d'une latence minimale et qui est extrêmement cruciale, notamment pour tout ce qui est santé et également voiture autonome. Hein. Donc voilà, donc il y a des promesses extrêmement fortes. Ensuite, je pense qu'on aura le temps de discuter sur le coût, en fait, en termes notamment de liberté numérique, en termes de principes anciens de la neutralité du net, et puis aussi en termes environnementaux.
Et ben voilà, un chapitrage qu'on va essayer d'aborder dans les 35 minutes qui nous restent. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Je ne sais pas s'il pleut dans votre studio, Laurence. Alors, mais on a un petit peu l'impression, si jamais il y a moyen de régler ce petit problème technique, ça sera quand même plus agréable pour l'écoute. En tout cas, il y a un gros bruit de fond lorsque vous parlez. Dominique Boulier, quand on s'intéresse aux usages du numérique, aujourd'hui, est-ce qu'on est forcé de s'intéresser à cette 5G ?
Bien, quand on s'intéresse aux usages, on s'intéresse aux usagers. C'est-à-dire, on essaye de voir ce qui les intéresse aussi. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la priorité de leur agenda, comme on dirait, même si, évidemment, les promesses que Laurence évoquait sont tout à fait séduisantes comme cela, a priori. Mais les problèmes que l'on rencontre actuellement, on se demande à quel moment on va les traiter et pourquoi c'est pas l'innovation n'est pas orientée dans ce sens-là. J'en citerai deux qui sont vraiment partagées. Les questions de sécurité. Là, on nous fait une promesse de vitesse, vitesse, vitesse. Ça fait depuis 30 ans, effectivement, qu'on nous tient ce discours. Tout est orienté vitesse. Et donc, en l'occurrence, ici, ce qui va permettre de réduire la latence. Mais les problèmes de sécurité sont absolument énormes. La faiblesse du réseau et les failles de sécurité, ce qu'on appelle les data breaches qui se multiplient, ces choses-là ne seront pas du tout réglées par ça, y compris seront d'ailleurs démultipliées, puisqu'on connectera tout et n'importe quoi. Et quelquefois, pour le moment, on a un peu de visibilité là-dessus. Deuxième problème, la question de l'égalité d'accès. L'égalité d'accès, on sait bien qu'il y a un certain nombre de régions, de villes, de villes moyennes même, par exemple, qui ne pourront pas avoir accès à cette multiplication d'antennes que requiert la 5G. Et on se dit, alors, est-ce que c'est vraiment un problème complètement secondaire dont on n'a pas à s'occuper, alors qu'en réalité, déjà maintenant, nous avons ce problème-là de permettre à une égalité dans les territoires et qui permettent justement d'innover aussi techniquement pour résoudre ces problèmes-là. Alors, ça serait sans doute des politiques d'innovation qu'on aurait quand même plus orientées vers d'autres objectifs.
Sur la question de l'égalité d'accès, après on ira sur la question de la sécurité. Pierre-Jean Benghozi, quel est le calendrier du déploiement de la 5G et est-ce qu'il y a la volonté de couvrir l'ensemble du territoire de façon à ce que tout le monde puisse profiter, s'il le souhaite? Mais y aura-t-il vraiment le choix, d'ailleurs, de la 5G ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses un peu différentes à évoquer. Vous avez évoqué tout à l'heure mes anciennes fonctions à l'ARCEP et les questions de connectivité du territoire. C'était aussi un de mes dadas, je veux dire, pour le dire un peu brutalement. Je pense que c'est effectivement, et Dominique Boulier a tout à fait raison de le souligner, un enjeu absolument crucial et aujourd'hui de permettre l'accès, la connectivité et surtout le territoire. C'est pas forcément le problème de la 5G. C'est pas forcément le problème de la 5G, d'une part, parce que la 5G n'est pas une technologie qui va raser tout de zéro et se reconstruire complètement différemment. C'est une technologie qui va se greffer sur les technologies déjà existantes et notamment sur la 4G. Et une grande partie des annonces qu'on a aujourd'hui, notamment dans d'autres pays, je pense aux États-Unis ou y compris en Asie, sont souvent de la 4G améliorée plus que de la vraie 5G.
Donc on est plus dans le saut qualitatif que dans la rupture véritable.
On est dans une continuité. Il y a un saut qualitatif, mais dans la continuité par rapport aux technologies existantes, ça rentre en détail. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est important à souligner, c'est que l'objectif de la 5G, et là aussi je souscris à ce qui a été dit par Laurent Salard et Dominique Boulier, ce n'est pas d'améliorer la vie des consommateurs, je veux dire brutalement, hein, même si c'est pas forcément comme ça qu'on le dirait. L'objectif principal est essentiellement de permettre de s'adresser à ce qu'on appelle les marchés industriels, les marchés B2B, pour permettre justement le développement de services industriels et pour le consommateur. L'essentiel de ce qu'il verra, c'est de pouvoir continuer à téléphoner aussi bien qu'il le fait aujourd'hui avec de la 4G.
Est-ce que ça veut dire ça, Pierre-Jean Benghozi, ensuite je redonnerai la parole à Laurent Salard et à Dominique Boulier, qu'il n'y a rien que je ne puisse faire aujourd'hui avec la 4G, qu'il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui plutôt avec la 4G, que je pourrais faire avec la 5G, moi en tant qu'individu, c'est-à-dire chez moi, je peux télécharger des films, la 5G ça sera plus rapide, mais je pourrais toujours télécharger des films, ou bien est-ce qu'il y a aussi des usages peut-être qui vont être permis, qui seront disponibles pour les particuliers, mais dont on ignore pour l'instant qu'ils vont exister.
Ce qu'on dit souvent que la 5G, c'est la technologie multipliée par 10. 5-10. 10 fois plus vite, 10 fois plus de latence et 10 fois plus de capacité de connecter des objets. Alors, si bien entendu, on va dire, ça sert à rien d'aller plus vite. Ça sert à rien d'aller plus vite. L'absence de latence, c'est pas forcément ça peut permettre de conduire des engins.
C'est le temps de réaction, ça.
D'avoir une réactivité quasiment instantanée et donc de plutôt que de monter sur une grue à 20 mètres du sol quand il y a une tempête, etc., de pouvoir éventuellement commander à distance. Ça permet de faire de la télémédecine, de la téléchirurgie. Ça permet de conduire donc des opérations à distance sans forcément être sur place et donc avec moins de danger, y compris pour certains services particuliers. Donc ça, c'est des services qui vont être possibles et qui ne sont pas aujourd'hui possibles directement, sans parler des voitures connectées. Cela étant, pour le consommateur lambda, c'est pas l'application majeure, c'est pas la killing application qui va emporter tout le fait. Parce qu'effectivement, voir une vidéo plus vite que ce qu'elle déroule, ça sert pas à grand chose. Et donc, si je peux la télécharger en 10 secondes plutôt qu'en une seconde, ça changera pas grand chose pour moi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laurent Salard? Est-ce que ça ne risque pas de créer un effet un peu déceptif de la part justement du grand public qui entend beaucoup parler de cette 5G et qui risque de l'avoir arrivé en se disant, bah voilà, certes, j'ai téléchargé mon film en 6 secondes au lieu d'une minute. Bon, la différence, comme le disait Pierre-Jean Benvozy, elle n'est pas extraordinaire, en tout cas pas forcément d'une utilité essentielle.
Oui, alors bon, on parlera peut-être tout à l'heure, bien sûr, à des coûts en termes de liberté.
Ouais, on va y revenir, vous inquiétez pas. Mais voilà,
de neutralité du net.
Essayons, si vous le voulez bien, voilà, rester sur les thèmes qu'on aborde là.
Mais avant, justement, on voit que, bien sûr, la 5G, c'est la technologie du tout connecté. Hein, c'est quand même ce qui est nouveau dans cette technologie, c'est de connecter les choses, les non-humains, de façon assez généralisée. Avec, justement, cette possibilité de passer du bas débit, c'est-à-dire pour des monitoring qui ne demandent pas un flux continu, mais juste une prise de données par jour, par exemple. On n'est pas obligé d'être sur la 5G avec les hautes fréquences, on peut être sur du bas débit, et c'est ces plages distribuées qui sont aussi l'une des spécificités de la 5G. Bon, ça c'est peut-être un point technique, mais il y a cette idée, voilà, qu'on connecte les choses, et donc ce qu'on peut par exemple nous promettre, et ça peut être un des arguments de vente en termes de facilitation, c'est tout ce qui est connexion des compteurs, par exemple d'électricité, qui permettent en effet d'avoir un retour sur sa consommation et donc de mieux consommer. Donc là, il peut y avoir, avec cette connexion des compteurs, par exemple d'électricité, en effet, un gain en termes tout simplement d'information et de connaissances. Mais évidemment, quand on connaît sa consommation électrique et quand des datas sont renvoyées autour de cette consommation électrique, on connaît tout de la vie d'un individu et de sa famille. On sait à quelle heure il se réveille, à quelle heure il se couche, quels sont à peu près ses équipements électriques, puisque on a des signatures qui sont aussi électriques de chaque appareil. Donc ça rend aussi transparent tout un mode de vie. Et donc, ça a un coût en termes donc de liberté publique, même si ça, en apparence, ça permet en effet de mieux consommer de l'électricité, de ne plus la consommer à l'aveugle. Donc, ça me semble faciliter la vie, mais à un prix extrêmement important en termes de données personnelles.
Est-ce qu'en tout cas, on peut quand même concéder le fait, Dominique Boulier, qu'il y a des gains, qui sont des gains alors qui seront importants pour l'industrie. J'évoquais en début d'émission cette phrase, la 5G sera au 21e siècle ce que l'électricité a été au 19e, c'est-à-dire une véritable révolution. Alors là, on est sans doute dans une forme d'exagération. En tout cas, c'est peut-être trop tôt pour le savoir. On verra dans un siècle si cette phrase était pertinente ou pas. Mais en tout cas, les gains pour l'industrie et les gains aussi pour le grand public qui vous paraissent mériter le fait qu'on y aille et qu'on y aille de manière aussi, comment dire, enthousiaste vers cette 5G.
Non, je pense que, de fait, les discours d'accompagnement et les promesses qui sont émises sont largement survendus de ce point de vue. L'intérêt, ça va être précisément de rentrer dans la discussion sur les architectures, les choix qui sont faits, et notamment le fait qu'on évite de nous vendre par anticipation une 5G qui n'existe pas encore. C'est ce que disait Pierre-Jean Legonzi tout à l'heure, en disant effectivement qu'on a de la 4G améliorée, et on dit que c'est déjà de la 5G, etc. Là, on voit clairement qu'il y a une logique commerciale qui relève de l'obsolescence programmée, d'une certaine façon, où on vous fait déjà savoir que votre téléphone est déjà obsolète, et on vous fait anticiper sur le fait qu'il va falloir en changer. Alors que, comme le disait Pierre-Jean, effectivement, c'est d'autres choses, d'autres services qui émergeront à un moment ou à un autre, notamment avec cette connexion d'Internet des objets. Mais on sait que du point de vue des industries, quelles sont celles qui ont bénéficié massivement de toutes les innovations au fur et à mesure qu'il y a eu des améliorations en termes de performance, justement. C'est d'une part la finance, qui maintenant, en termes de vitesse, fonctionne à la picoseconde. Je ne sais pas si vous voyez, effectivement. Donc, je ne vois pas d'ailleurs moi-même.
Non, moi, j'allais vous dire aussi.
Exactement. C'est exactement. Et donc, et puis de l'autre côté, la surveillance, un peu dans la lignée de ce que disait Laurent Salard tout de suite. Donc, si vous voulez, il va falloir pouvoir dire
Oui, la connexion des objets, ça c'est quelque chose qui va changer réellement, de mon point de vue, le monde dans lequel nous vivons, mais il va falloir, y compris, le penser, et non pas seulement se dire, laissons les clés à ceux qui détiennent les leviers technologiques. Il y a vraiment là une architecture à inventer, une architecture qui a sa composante sociale, organisationnelle, et de valeur ou de régulation, disons qu'il doit y aller avec, quoi.
Mais est-ce que vous considérez les uns et les autres que cette nécessité de penser l'utilité, finalement, et la façon dont va être mené ce déploiement de la 5G, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est suffisamment présent dans le débat? C'est pas juste un débat technologique, c'est pas juste un débat entre ingénieurs, c'est aussi un débat politique, même s'il y a derrière des opérations qui peuvent intéresser les opérateurs, donc c'est-à-dire des opérations commerciales, mais on nous vend aussi quand même une société qui va évoluer, qui va être structurée différemment. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui, je commence par vous, Pierre-Jean Benghozi, de dire non, nous, société, alors mettons que ce soit la France, on préfère ne pas faire le choix de la 5G parce qu'au regard des gains et des pertes, eh ben on préfère rester là où on en est aujourd'hui. Ou bien est-ce que cette question est totalement inenvisageable de votre point de vue? Cette façon de la poser en tout cas.
Non, c'est envisageable. Ce qu'il faut dire, j'ai rapidement évoqué tout
donc
à l'heure...
Donc on peut dire non, on n'y va pas.
Non, on ne peut pas dire non, on n'y va pas. Pas pour les raisons pour lesquelles on la survend. Je suis d'accord avec le constat qu'on survend la 5G, je ne suis pas forcément sûr de savoir qui la survend exactement. Il y a d'une part une forme de course à l'échalote entre les différents pays pour arriver le plus vite possible, et l'Europe y compris la France participant de cette course, sauf que c'est pas forcément exactement une course entre les pays, puisque finalement l'augmentation de la connectivité dans un pays donné elle va pas forcément améliorer sa position concurrentielle mondiale, mais par contre c'est un levier extraordinaire pour l'économie, pour l'industrie, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc le seul pour moi intérêt majeur, un des intérêts majeurs en tout cas d'aller vite, c'est justement de fournir à l'ensemble des secteurs industriels, automobile, agriculture, santé, etc., des leviers d'amélioration de la performance et de la qualité des services qu'ils proposent. Mais pourquoi on y va aujourd'hui? D'abord, les opérateurs, et y compris les industries, quand on les interroge directement, ne sont pas si chauds pour se précipiter. Il y a clairement une volonté, y compris publique, d'accélérer un peu ces déploiements, pour la raison que j'évoquais à l'instant. Mais les opérateurs et les équipementiers et les industriels, ils vont prudemment pour deux raisons. D'abord, parce que le modèle économique de la 5G, malgré tout ce qu'on a dit, n'existe pas encore. Il n'y a pas d'application claire qui font que tous les investissements que va requérir la 5G seront amortissables rapidement. Deuxième élément, ils y vont prudemment parce que l'avantage majeur aujourd'hui de la 5G, c'est surtout de permettre de faire de la 4G correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le volume de consommation des données avec les smartphones, le téléchargement de la vidéo, etc., fait qu'on double quasiment la consommation de données chaque année. Et qu'à ce rythme-là, en 2020, les réseaux seront saturés. Donc la 5G sera la solution, et la seule solution aujourd'hui qu'on connaisse, pour amortir la croissance absolument phénoménale du trafic.
Donc d'une certaine manière, il n'y a pas d'alternative, Laurent Salard.
Alors, la réponse peut-être donnée tout simplement par la Terre elle-même, la nature, la planète en fait, qui peut à sa façon dire non, parce que ce scénario socio-technique est de toute façon assez improbable en termes environnementaux, c'est-à-dire que connecter toutes les choses, mettre de la puissance de calcul, permettre de l'émission vers des smartphones, des data centers, cela suppose d'utiliser des composants demandant des terres rares, de l'extraction de ressources naturelles. Et puis, ça suppose aussi de l'énergie, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, dont on sait aujourd'hui qu'on a atteint les limites, et d'une certaine façon. Donc, c'est un scénario improbable en termes environnementaux, et ça ne facilitera pas la vie de la Terre elle-même et la vie sur Terre elle-même. Et donc, ça, c'est, il me semble que c'est vraiment le point de cette affaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on arrive à réduire les émissions de CO2 dans beaucoup de domaines, mais c'est le numérique qui augmente toujours plus, notamment avec justement l'extension de ce qui est connecté et des données donc qui sont émises. Et donc aujourd'hui, vous avez 19% dans la distribution des effets des émissions à effet de serre, donc 19% qui est représenté par les data centers, 11% qui est représenté par les smartphones.
Mais alors si on suit cette logique, Laurence Allard, quand on parle de l'épuisement des ressources, certains plaident pour une décroissance en disant voilà, il faut moins consommer. Est-ce qu'on pourrait du coup l'envisager au regard de cette 5G qui arrive, en se disant plutôt que d'aller vers la 5G, il faudrait avoir des politiques de décroissance numérique, c'est-à-dire où on consommerait moins de données. Est-ce que ça serait la suite logique de votre analyse?
Oui, alors c'est le scénario d'un rapport du Shift Project de 2018, qui est le scénario de la sobriété numérique, et donc de se dire que non, nous n'avons pas forcément besoin de voitures autonomes, nous n'avons pas forcément besoin de télécharger en une seconde les X saisons de nos X séries préférées pour chiller sur Netflix, et donc en effet de se poser des questions en termes de scénarios plutôt de satiété numérique, c'est-à-dire, on va peut-être aujourd'hui se mettre au régime de la data, de la connexion, ne plus forcément acheter et fabriquer des smartphones toujours plus performants, et donc recycler, réutiliser, réparer. Voilà, ça ce sont des pratiques qui vont dans le sens d'un scénario de sobriété et voire de satiété, c'est-à-dire plus de nouvelles technologies.
Que pensez-vous de ce scénario, Dominique Boulier?
J'ai publié il n'y a pas très longtemps une tribune qui s'appelait « Lutter contre le réchauffement médiatique » et dans cette qui a un rapport avec le réchauffement climatique, mais un rapport paradoxal, parce que précisément nous sommes dans une course à la haute fréquence et à la réactivité qui fait que l'on génère nous-mêmes dans nos façons de liker, de retweeter, etc., ou de publier tout simplement, nous générons de fait un échauffement médiatique absolument général. Critique sur le plan mental, collectif, mais aussi critique sur le plan des volumes de données qui doivent être stockés, analysés et réexploités, etc.
Donc cette amplification... Et ça va chauffer encore plus avec la 5G ?
Ah ben évidemment, c'est fait, puisque là on étend ça à l'ensemble des entités qui peuplent le monde. Potentiellement, on a déjà fait ça avec les adresses IP et justement on les a distribuées. Avec IPv6, on est passé justement au fait qu'on peut donner les adresses à tout le monde. Et du coup, maintenant, avec la technologie qu'on va avoir et les ondes millimétriques, on doit être capable précisément de connecter absolument tout. Alors de ce point de vue, c'est quand même quelque chose qui est une tendance qui se retrouve lancée malgré nous, parce qu'il n'y a pas d'instance qui a décidé ça réellement. Donc c'est ça. Et je voudrais insister là-dessus. Pierre-Jean Benguzzi avait mentionné ça. Justement, qu'en fin de compte, on se demande réellement qui pousse dans ce sens-là. Et donc, on a l'impression que c'est comme un train lancé et que personne ne sait exactement s'il y a un pilote dans l'avion ou dans le train. Et en l'occurrence, la question qui, ça renvoie précisément à ce qu'on entend comme mot d'ordre, si vous voulez, sur l'Internet, où on dit rough consensus and running code. Vous savez, donc, effectivement, s'arrange, on s'entend sur un consensus vague, si vous voulez. Tout le monde est à peu près d'accord, mais on ne sait pas où a été prise la décision. Et puis, le running code, ça veut dire que le code avance, on produit du code, et puis on verra. Bien.
Mais est-ce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe finalement, Dominique Boulier? C'est-à-dire quand il y a des grandes innovations technologiques, dans la mesure où on sait qu'on peut le faire, on le fait, et on se met à réfléchir peut-être après sur la nécessité qu'il y avait de le faire ou pas.
Imaginez par exemple que vous transposez ce type d'analyse de réseau sur des autoroutes. Et vous vous dites, maintenant on a une nouvelle idée, technologie d'autoroute, et puis allez, voilà, on installe des autoroutes comme ça, allons-y, etc. Vous imaginez ça? Ça ne marche pas. Alors ça a marché effectivement pour le nucléaire en France. En 3 mois, on a décidé d'équiper toute la France en nucléaire. Bon, ça c'est vrai. C'est un type de gestion qui est assez particulier quand même sur le plan politique. On est au-delà maintenant. On doit précisément construire des arènes de décision qui permettent de discuter ces choses-là. Comme il y a justement un doute sur qui ça va servir, on n'est pas dans l'urgence non plus, je pense que précisément ça serait l'occasion de construire ces instances de délibération pour dire est-ce qu'on est réellement quel type de 5G on veut et quelles sont les propriétés qu'on veut. Moi je pense par exemple que si toutes ces puissances de calcul qui vont être, et de rapidité de transmission ont été mises à disposition pour justement se dire comment on va gagner de la vitesse, on peut ralentir par ailleurs, non seulement en termes de volume comme on le disait tout à l'heure et de consommation, mais aussi en sécurisant les réseaux, parce qu'on sait que ça va accroître un petit peu certains délais, mais à des niveaux vraiment de la seconde, si vous voulez, ça pourrait être un débat qui réellement se concentrerait sur les vrais problèmes des réseaux et non pas seulement sur ce qu'on nous laisse croire comme solution absolue à tous nos problèmes,
que l'on n'a pas encore, d'ailleurs, quelquefois.
Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire un peu ce soir, de réfléchir à ça, Pierre-Jean Benghozi.
Je vais jouer le provocateur, puisque je pense qu'on à la fois je souscris tout à fait sur le fait que le développement aujourd'hui des technologies de l'information et de la communication représente une part tout à fait significative de la consommation énergétique et que la question d'avoir des technologies de l'information et de la communication sobre est absolument essentielle. Alors cela étant dit, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur la 5G de façon trop générale en ne voyant que le côté toujours plus. Il y avait une publicité à l'époque où il y avait un gros bonhomme qui donne un petit coup d'épaule, un peu plus de sucre, un peu plus de cacahuètes, un peu plus de chocolat, etc. C'est pas ça. Je pense que quand on regarde un peu très directement la technologie elle-même, elle est, sans rentrer dans le détail, porteuse de ce qu'on appelle la virtualisation qui permet de démultiplier le réseau et donc d'avoir d'une certaine manière des architectures qui sont plus sobres en évitant justement le cas échéant d'échanger certaines données pour les partager et distribuer au plus près éventuellement des utilisateurs, pour éventuellement réduire le volume des terminaux puisque une partie des calculs peut être éventuellement fait sur le réseau et pas forcément au niveau des terminaux. Donc je pense que c'est pas le choix forcément qui est fait aujourd'hui par les industries, etc. Mais c'est une des pistes que permettrait la 5G de concevoir un peu différemment. Donc ça, c'est déjà une première remarque.
Bon, ça, c'est sur la sobriété, mais sur l'utilité. C'est une question, j'ai l'impression je suis pas historien des sciences, hein, mais qu'on se pose peut-être pas suffisamment de se dire, est-ce qu'on en a besoin? C'est-à-dire, est-ce que ça répond à un besoin? Ou bien, est-ce que c'est l'offre qui va, comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec le marketing, qui va créer une demande et qui fait qu'on ne pourra plus se passer dans 10 ans peut-être de la 5G, alors qu'on n'en a pas forcément l'utilité aujourd'hui puisqu'elle n'existe pas.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la première demande qu'on a, c'est de pouvoir amortir les flux qu'on a aujourd'hui sur la 4G. Donc ça, c'est déjà...
Saturation
des réseaux, etc. La deuxième demande qu'on a, et c'est d'ailleurs les premières applications qu'il y a eu aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la 5G fixe. C'est de se dire, sur les territoires qui sont mal connectés, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, qui n'ont pas accès à de la fibre, à du très haut débit, etc., la 5G va permettre sur ces territoires de fournir des services, des applications d'une qualité équivalente. Et les premiers déploiements qu'il y a pu avoir aux États-Unis ont été faits sur ce schéma-là, c'est-à-dire que la 5G, pas pour faire du mobile, mais pour faire du fixe. Et on a des expériences aujourd'hui en Europe, en Roumanie par exemple, avec un des opérateurs français d'ailleurs, qui porte là-dessus. Donc c'est, faut bien voir que le discours de la sobriété, c'est un discours qui peut s'appliquer à des gens qui ont déjà, et notamment en ville, ou des gens qu'on a déjà toutes les connexions. Mais sur les territoires ruraux, sur les territoires mal connectés, pas forcément la 5G, mais le déploiement de la connectivité, absolument essentiel pour permettre éventuellement le développement de télémédecine, de diagnostic à distance, d'imagerie médicale. Aujourd'hui, les territoires, c'est le terme qui est consacré, sont beaucoup moins desservis en hôpitaux, en cabinet de médecins, de dentisterie, etc., qu'en couverture mobile. Servons-nous de cette couverture mobile justement pour assurer des services qu'aujourd'hui ne sont pas assurés. Donc le fait de pouvoir faire du télédiagnostic, de pouvoir faire des radios, des électrocardiogrammes à distance, etc., si ça peut éviter de faire 20, 30, 40 km pour aller à l'hôpital le plus proche, c'est un gain.
Oui, mais un choix de société, ça pourrait être aussi de se dire, rouvrons des cliniques, des hôpitaux, mettons davantage de services publics dans les territoires. C'est-à-dire, c'est aussi des choix politiques et pas seulement technologiques, Laurent Salard.
Oui, alors bon, c'est sur cette dimension finalement d'équité de la connectivité sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un argument qu'on peut entendre et bon. Ensuite, en effet, étant donné le coût environnemental de cette 5G, de la connexion étendue à toute chose, et des datas qui en sont générées, qu'il faut stocker quelque part dans des data centers extrêmement énergivores, peut-être, imaginons, en effet, de se donner des priorités en termes d'usage, peut-être autour de la santé, justement, peut-être en termes d'énergie. Et là, pour le coup, discutons aussi tout simplement de la question des libertés, de la privacité numérique qui est en jeu, puisque on donne la priorité aux données de santé, par exemple aussi aux données autour de l'énergie, là, on a ce qu'on appelle des données sensibles en termes de vie privée. Et donc ici, il faut sécuriser au plan technique, mais aussi au plan des traitements, qu'est-ce qui est fait de ces données, qui a accès. Et donc ça, c'est toutes les questions aussi en termes de politique de vie privée qui doivent être posées, discutées, et puis peut-être se poser une question. On n'a pas besoin peut-être de connecter toutes les choses, quels sont les domaines prioritaires et quels sont les meilleurs scénarios pour la vie privée de tout un chacun.
Je voudrais vous citer un de vos collègues qui est chercheur dans le domaine de la communication et du numérique également, Michel Baudouin-Lafont, qui répondait à une interview très récente à Up Magazine et qui disait ceci sur les technologies. Alors, il ne parlait pas spécifiquement de la 5G, mais ça vaut également pour. Il faut que nous soyons clairs sur le rôle que l'on veut faire jouer aux technologies. Ce n'est pas l'homme qu'il faut mettre dans la boucle, c'est la machine qui doit rentrer dans la logique humaine et sociale. Est-ce qu'un des problèmes, alors aujourd'hui de la 5G, mais peut-être aussi par rapport à d'autres innovations technologiques, Dominique Boulier, ça n'est pas de penser d'abord un système plutôt que de penser, enfin à partir du système plutôt que de penser à partir de ceux qui en sont les usagers ou de ceux qui en sont les, comment dire, de le penser de manière plus individuelle, disons.
Oui, en fait, vous voyez bien, quand il s'agit de vendre ces technologies, de convaincre que c'était nécessaire, vous voyez que l'argument de la médecine et de la santé vient à chaque fois. Mais ça, je connais ça depuis plus de 30 ans que j'étudie tout ça. À chaque fois, on nous fait le même coup. C'est-à-dire que de toute façon, ça, c'est indiscutable. Parce que là, du coup, on a l'impression de mettre les usagers et ça devient vital, si vous voulez. Mais ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, en réalité. C'est quelque
Alors,
chose qui est
une promesse. On est peut-être mieux soigné aujourd'hui qu'on l'était il y a 30 ans, non?
Oui, grâce à la télémédecine.
Je ne sais pas.
Moi, j'ai fait des études de terrain, de télémédecine. Médecine, j'en ai fait dans les années 90 aux Antilles, en Norvège, etc., qui connectaient avec l'Arabie Saoudite, avec des choses. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les problèmes organisationnels sont prioritaires. Alors là, je reviens sur votre question, justement, parce que le problème, c'est qu'y compris les praticiens, les médecins, quelquefois, ne s'entendent pas pour travailler entre eux. Dans certains cas, ils s'entendent, dans d'autres cas, ils ne s'entendent pas. Et à ce moment-là, ce n'est pas la technologie qui va résoudre ce problème-là. Et alors, sur la question, quand même, je voudrais revenir sur la question des territoires. Pierre-Jean Bengosi vient de dire qu'effectivement, on devrait pouvoir résoudre ce problème-là, ces problèmes de nos connectivités. Vu le type d'antenne qui est nécessaire, et le nombre d'antennes qui est nécessaire, puisque la portée de cette technologie-là est de fait limitée, les investissements qui vont être nécessaires pour améliorer cette connectivité et équiper en 5G vont être de toute façon tellement importants qu'il est à peu près clair que ce ne sont pas les territoires éloignés qui vont bénéficier de cela. C'est un marché qui n'est... Les opérateurs vont forcément aller sur des marchés beaucoup plus solvables. Et on le sait bien. Donc de ce point de vue, je serais tout à fait étonné justement qu'on se serve de la 5G pour résoudre ces problèmes de connectivité. Alors si on dit que c'est plutôt de la 4G améliorée, d'accord, peut-être. Mais en attendant, il faut effectivement s'entendre exactement sur ce qu'on met en place. Et c'est pas du tout une pensée des problèmes que l'on rencontre. Et à partir de là, des solutions peuvent être trouvées qui vont combiner des éléments de technologie, oui, et dans la technologie, certains aspects de la technologie, et c'est ce que j'appelle moi effectivement du design organisationnel, c'est-à-dire qu'on compose qui fait quoi et comment on met la technologie dans certains éléments, mais là à ce moment-là ça veut dire que problème par problème on essaye d'adapter les offres technologiques pour la résolution de ces vrais problèmes et non pas seulement de se dire nous avons une technologie, quels seraient les problèmes que l'on pourrait traiter. Cette façon de poser les problèmes est totalement contre-productive parce qu'au bout du compte, on invente un certain nombre de choses et on sait bien que du coup il y a certains types d'industries qui en bénéficient et c'est tout.
Un dernier aspect que je voudrais aborder avec vous trois, et il nous reste encore quelques minutes, on a évoqué la question de la vulnérabilité finalement par rapport à la sécurité des données, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la vulnérabilité des systèmes qui se doivent se poser avec la 5G ? Si on considère qu'on va créer des systèmes qui seront très connectés, est-ce que un système hyper connecté n'est pas aussi plus vulnérable ? C'est-à-dire il est à la fois plus puissant, mais s'il y a une faille dans le système, est-ce que ça n'est pas prendre le risque que tout le système s'écroule ? Pierre-Jean Bengosi.
Le ces questions de sécurité sont effectivement des questions absolument cruciales. Et sans revenir sur le débat autour de Huawei, je ne prononcerai pas du tout sur Huawei, ce que révèle le débat autour de Huawei, et pas seulement le cas Huawei, c'est justement la criticité finalement de ces réseaux qui sont extrêmement intégrés et qui comportent une part logicielle de plus en plus forte.
Je le voyais moins en termes d'attaque, disons, extérieure que de défaillance intérieure.
Moi, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que effectivement, quand on a des milliers d'objets connectés, ces objets qui peuvent être la sécurité des objets connectés pas forcément extrêmement forte. Donc il y a des risques d'attaque et d'attaque éventuellement sur les réseaux. Je pense qu'un des risques aussi qui est essentiel, c'est la criticité même de ces réseaux. Quand on parle de Smart City, qu'on évoquait, qui est aussi une des applications.
Donc les villes intelligentes.
Des villes intelligentes, pardon. Les villes intelligentes, si vous avez tous les feux rouges d'une ville qui s'arrête ou qui sont bloqués, la ville est bloquée. Des embouteillages partout, on voit bien dès qu'il y a des grèves de routiers ou autres, etc. Donc on a des systèmes aujourd'hui qui sont extrêmement sensibles à les éléments de système d'information. Un aéroport, si le système de prise de billets, etc. bloque, tout l'aéroport est bloqué. On est obligé de refaire les billets à la main, mais refaire les billets à la main, c'est vérifier que les bagages correspondent bien, etc. Donc il y a à la fois dans ces questions de sécurité le risque de faille et de cyberattaque, mais il y a aussi la criticité, les problèmes de bugs, d'algorithmes, de défaillances techniques. On l'a vu avec des avions récemment.
Et ça, le facteur 10 que vous évoquiez tout à l'heure, il fonctionne aussi en termes de criticité.
Oui, parce que
plus, ça va être 10 fois plus risqué.
Plus vous intégrez les systèmes, plus le système est fragile. Ça, c'est clair.
Laurent Salard.
L'autre vulnérabilité, elle est autour évidemment de la question de la dépendance énergétique accrue, puisqu'il s'agit de faire fonctionner tout un ensemble d'objets connectés et de leur faire renvoyer des datas sur des serveurs. Et donc ça suppose d'accroître plus encore la demande énergétique. Et donc là, on fait dépendre toute une ville a des ressources dont on sait qu'elles sont limitées. Donc ça semble extrêmement paradoxal, et la vulnérabilité là, elle est évidemment extrême en ce cas.
Dominique Goulier.
Disons, ce ne sont pas des scénarios de science-fiction, je veux dire, c'est des choses qui se déroulent déjà. Les objets connectés sont déjà les principales portes d'entrée pour un certain nombre d'attaques, de certains types d'attaques, et ça va depuis les caméras de surveillance qu'on mobilise juste pour envoyer des requêtes et donc faire tomber un certain nombre de serveurs, mais aussi aux jouets connectés, aux jouets qui parlent aux enfants et qui en réalité sont connectés en permanence, etc. Donc toute cette dimension de l'Internet des objets est certainement fascinante et génère des idées d'innovation, et donc la 5G va venir à l'appui de tout cela, mais en même temps il s'agit de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a surtout créé les conditions qui permettent une utilisation saine et responsable de ces technos avant de se lancer dedans? On peut ralentir un minimum là-dessus, mais là encore, il faudrait construire les conditions d'une discussion politique, technopolitique, si vous voulez, sur cette affaire-là, avec les experts, bien entendu, mais aussi avec les objectifs qu'on peut avoir pour des finalités collectives plus justifiées.
Bon, toute dernière question, Pierre-Jean Benghosi. En dépit des réserves importantes qui ont été exprimées ce soir par rapport à ce que va produire la 5G, imaginons que j'ai quand même envie, moi, aujourd'hui, de voir ce que ça donne, qu'est-ce que je peux faire. Il y a des pays, il y a des endroits où on est déjà en train de tester ça.
Beaucoup, la plupart des annonces qui sont faites aujourd'hui sont, j'allais dire, des annonces commerciales qui sont plus des annonces ou de la 4,9G plus que de la 5G. Vous avez des pays où on a de la 5G fixe, j'évoquais à l'instant. Et puis le grand problème en tant qu'utilisateur, c'est que si vous voulez vous connecter, vous n'avez pas de terminaux. Donc tant que vous avez, en tout cas les terminaux qui sont annoncés...
Même un ancien de l'ARCEP, il peut pas nous procurer
vous savez qu'au moment où la 4G est arrivée, l'ARCEP a eu très longtemps à faire équiper ses membres du collège par des terminaux 4G. Donc je pense qu'on n'aura pas tout de suite les terminaux 5G.
Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Dominique Boulier, et je remercie également les équipes de la RTS à Lausanne qui a assuré le duplex. Merci également à Laurence Laurence Allard et aux équipes de France Bleu Isère à Grenoble, qui en adresse toutes nos amitiés une fois de plus après les événements compliqués qu'ils ont vécu il y a quelques semaines de cela. Et puis merci à vous, Pierre-Jean Bengozi, qui étiez à mes côtés en studio à Paris. Merci également à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Léa Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Clément Daté. Dans 3 minutes, ce sera la dispute.
Oui, Arnaud Laporte. N'oubliez pas, vous êtes en train de recharger votre bebop dans le... derrière le...
Mais vous savez que j'ai eu un bebop.
Mais je sais bien, vous l'avez toujours, vous êtes très attaché.
Il fallait trouver les bornes, hein. C'était pas facile.
Il fallait se coller au réverbère. On va parler, oui, en effet, d'art plastique tout à l'heure. Mais j'aimerais connaître la question du grain à moudre de demain.
Le rugby n'est-il plus qu'un sport de brut à l'avant-veille du dernier match, des derniers matchs du tournoi Destination? C'est la question que nous allons poser à des rugbymen notamment, des rugbywomen même. Women.
Des women. Oui. C'est logique. Ça paraît logique. On verra ça demain. Merci beaucoup Hervé Gardette. Il est temps de retrouver Anne Lorchouin pour le rappel des titres de l'actualité, 19h sur France Culture.